Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui, édition des 19h30, temps universel de ce jeudi 7 février 2020. John Lydon à la présentation, tout d'abord les titres de cette édition. Ici aux États-Unis, Donald Trump a quitté à son procès en destitution, a dénoncé ce jeudi la méchanceté de ses adversaires démocrates. C'était lors d'un discours à la Maison-Blanche. Les avocats de Laurent Gbagbo réclament sa remise en liberté sans condition. L'ancien président est assigné à résidence depuis son acquittement par la CPI en 2019. En Centrafrique, c'est le premier anniversaire de l'accord de paix entre le gouvernement et 14 groupes armés. Au Cameroun, les séparatistes menacent de perturber la tenue des élections dimanche prochain. Le gouvernement se veut rassurant.
Les élections se tiendront partout. C'est d'abord la première instruction présidentielle. Il y aura l'encadrement sécuritaire. Et si cet encadrement sécuritaire mérite d'être renforcé, il sera renforcé.
Et puis, ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, se rendra en Afrique à partir du 15 février. Le secrétaire d'État américain sera à Dakar pour évoquer avec le président sénégalais Macky Sall un renforcement des relations entre les deux pays en matière de sécurité et d'économie. Le 19 février à Luanda, il rencontrera le président angolais João Lourenço pour réaffirmer le soutien des États-Unis aux efforts de l'Angola contre la corruption et en faveur de la démocratisation. Enfin, jusqu'au 19 février, le secrétaire d'État sera à Addis Abeba pour rencontrer à la fois le premier ministre Abiy Ahmed et Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine. Plusieurs centaines d'hommes d'affaires et dirigeants américains et africains sont réunis ce jeudi à Tunis dans le cadre d'une conférence visant à développer les liens commerciaux et les investissements entre les États-Unis et le continent africain. Il s'agit de la principale rencontre d'une série d'événements lancés en 2019 dans le cadre du projet Prosper Africa, par lequel Washington cherche à renforcer la présence économique américaine dans un continent en pleine croissance. L'administration américaine a rassemblé au sein d'une seule structure les outils pour promouvoir le commerce et l'investissement, a déclaré le sous-secrétaire américain au commerce par intérim, Joseph Zemzar, à l'ouverture de cette conférence qui dure une journée. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a signé à résidence depuis son acquittement par la CPI en janvier 2019, réclame une liberté sans condition, une exigence que ses avocats entendent faire valoir. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
D'après Dov Jacobs, un des avocats de Laurent Gbagbo, il ne peut être imposé de restrictions à la liberté d'une personne acquittée. Il a soutenu que son client doit pouvoir exercer l'intégralité de ses droits, y compris ceux civils et politiques. M. Jacobs a conclu que la seule issue logique est d'abandonner toutes les conditions restrictives de la liberté accordées à l'ancien président ivoirien. Laurent Gbagbo, qui vit en Belgique, a été reconnu non coupable de crimes lors des violences post-électorales en Côte d'Ivoire. Il a été maintenu en détention à La Haye pendant plus de 7 ans, dans l'attente d'un verdict des juges. Après leur acquittement, M. Gbagbo et l'ancien chef des jeunes patriotes Charles Blé Goudé ont été libérés sous condition. Ils sont obligés de résider dans un État membre de la Cour en attendant leur procès en appel. Blé Goudé, qui réside à La Haye, a été condamné fin décembre à 20 ans de prison par la justice ivoirienne pour des crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011.
Au Burkina Faso, le producteur d'or canadien Semafo a annoncé la réouverture de sa mine d'or de Boungou, fermée en novembre après une attaque qui avait fait 38 morts. La société prévoit pour les 3 prochains mois de traiter en priorité les stocks de minerais existants sur le site pour une production trimestrielle d'environ 42 000 à 45 000 onces d'or, soit un peu plus d'une tonne. Un hélicoptère pouvant transporter 10 employés à la fois a commencé à faire la navette entre la mine et Fada, ville située à environ 200 km à l'est de Ouagadougou, a indiqué Semafo. La Belgique est disposée à aider la République démocratique du Congo en matière de formation de son armée, sa police et les services de renseignement, a déclaré la première ministre belge en visite visite officielle à Kinshasa. Madame Sophie Wilmès a discuté de la question avec le président Félix Tshisekedi. Par ailleurs, des membres de la société civile lui ont demandé de faire pression au gouvernement congolais pour que les officiers de l'armée congolaise sous sanction de l'Union européenne soient mis à l'écart. C'est la première visite d'un premier ministre belge en RDC depuis plus de 10 ans. Lors d'une cérémonie à Bangui, le président Faustin-Archange Touadéra a appelé les partenaires de la Centrafrique à plus de fermeté contre les groupes armés qui ne respectent pas l'accord de Khartoum signé il y a 1 an. Nathalie Barge.
1 an après, force est de constater que la période d'observation est dépassée. Le moment de la fermeté est venu pour que l'accord soit respecté, a déclaré Faustin-Archange Touadéra. Le président a appelé l'Union africaine et la communauté économique des États d'Afrique centrale à clarifier l'article 35 du texte qui prévoit des sanctions en cas de violation de l'accord. La nature de ces sanctions n'a toujours pas été définie. M. Touadéra a néanmoins dressé le bilan des avancées dans l'application de cet accord contesté par l'opposition et une partie de la société civile. Il a mentionné l'embellie économique avec une croissance de 4,8% en 2019 selon la Banque mondiale et le retour massif des réfugiés.
Les belligérants en Libye ont fait des progrès en vue d'un accord de cessez-le-feu durable, mais il reste encore quelques points de divergence. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi à Genève l'émissaire de l'ONU pour ce pays, Kassam Salamé. Des progrès ont été faits sur de nombreux sujets importants et nous avons devant nous des convergences dans plusieurs domaines, a indiqué M. Salamé devant la presse au 4e jour des tractations entre hauts responsables militaires des deux camps qui s'affrontent en Libye. Le représentant onusien a toutefois ajouter qu'il restait encore des points de divergence sans préciser lesquels pour arriver à un accord qui devrait ensuite être entériné par les autorités des deux bords.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au lendemain de son acquittement par le Sénat, à l'issue d'un procès en destitution, le président Donald Trump s'est déchaîné contre ses opposants politiques. Il a déclaré aujourd'hui avoir enduré une terrible épreuve avec sa mise en accusation. Eric Manirakiza.
Après avoir brandi de façon triomphale la une du Washington Post rapportant son acquittement, M. Trump s'en est pris aux élus démocrates à l'origine de sa mise en accusation. Ils sont vicieux et méchants, a-t-il affirmé. Ils ont fait l'impossible pour nous détruire et, ce faisant, attaquer notre pays.
Nous avons vécu l'enfer injustement. Nous n'avons rien fait de mal. Rien de mal. J'ai fait du mal dans ma vie, je l'admets. Je n'ai rien fait de mal et ça, c'est le résultat final.
Il a ensuite salué la sagesse, la rigueur morale et la force des sénateurs républicains qui ont fait bloc derrière lui. Il a cependant pris pour cible l'élu républicain Mitt Romney, seul membre du Grand Old Party à avoir voté en faveur de sa destitution. Lors d'un vote solennel mercredi, suivi en direct à la télévision par des dizaines de millions d'Américains, le Sénat a estimé par 52 voix sur 100 que Donald Trump ne s'était pas rendu coupable d'abus de pouvoir, ni avec 53 voix d'entrave à la bonne marche du Congrès. La majorité des 2/3 fixée par la Constitution n'ayant pas été atteinte, Donald John Trump est de ce fait acquitté, a conclu le chef de la Cour suprême des États-Unis, John Roberts, avant de donner le coup de marteau signifiant la fin de ce procès exceptionnel.
Les tensions sont vives à Jérusalem après une attaque à la voiture Bélier qui a blessé une dizaine de soldats israéliens, alors que 3 personnes ont été tuées en Cisjordanie par des tirs de forces israéliennes. Et Eki Abadou.
L'attaque nocturne à la voiture Bélier à Jérusalem n'a pas été revendiquée pour l'heure, mais a été saluée par le mouvement palestinien Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza comme une réponse au plan de Trump. De son côté, l'armée israélienne a annoncé l'arrestation du suspect dans le centre de Jérusalem. À la suite d'une opération importante de l'armée et du Shin Bet, le service de renseignement intérieur, la police israélienne et d'autres unités spéciales ont arrêté le terroriste qui a perpétré l'attaque. Le conducteur du véhicule a foncé sur une foule tôt ce matin dans une rue animée de Jérusalem-Ouest à la lisière de la partie arabe de la vieille ville. Ces violences interviennent dans le sillage de la présentation le 28 janvier par le président Donald Trump de son plan de règlement du conflit israélo-palestinien. Ce plan est salué par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, mais fustigé par les Palestiniens. Deux Palestiniens ont été tués jeudi par des tirs de soldats israéliens à Jénine, en Cisjordanie occupée.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOAfrique et VOAfrique.com.
Le gouvernement américain veut engager 50 millions de dollars pour mettre en œuvre Prosper Africa, le plan par lequel il cherche à renforcer sa présence en Afrique.
Voilà, c'est donc la Minute Éco avec Nani Talani.
Le gouvernement américain veut engager 50 millions de dollars pour mettre en œuvre Prosper Africa, le plan par lequel il cherche à renforcer sa présence en Afrique, surtout dans l'agroalimentaire, l'innovation, l'électricité et la santé. C'est ce qui ressort de la conférence qui se tient à Tunis et qui réunit des hommes d'affaires et dirigeants africains et américains pour développer les liens commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique, où ils sont peu présents. Le Libéria connaît une pénurie d'essence grave depuis plus de 10 jours, en cause des erreurs dans les calculs des réserves d'essence et l'encombrement des bassins du port, où les gros tankers ne peuvent plus accoster à cause des détritus qui n'ont pas été retirés des eaux du port. Selon les autorités, le dragage du port se fera d'ici 3 semaines pour que les navires attirant d'eau de 13 mètres puissent y entrer. En attendant, les chauffeurs de taxi et de minibus ont augmenté leurs prix dans un pays déjà frappé par une inflation d'environ 30% par an. Pour terminer, l'Éthiopie a commencé à vendre ses produits gaziers sur le marché local. Au cours des 6 premiers mois de l'année budgétaire en cours, le pays a vendu localement environ 1650 barils de pétrole brut. Le secteur minier éthiopien a aussi créé des emplois pour près de 70 000 personnes, générant environ 15,6 millions de dollars.
Et Yacouba Ouidraogo nous a rejoint, c'est pour parler de sport. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
Les affiches des quarts de finale de la Ligue des Champions sont connues.
Oui, le géant égyptien Al Ahly s'est offert un rendez-vous contre le Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Double champion en titre, l'Espérance de Tunis retrouve le Zamalek du Caire. Le Raja Athletic Club de Casablanca fera face au tout-puissant Mazembe. Enfin, affiche équilibrée entre le Wydad Athletic Club du Maroc et l'Étoile sportive du Sahel de la Tunisie. Les rencontres se disputent en aller les 28 et 29 février, puis en retour les 6 et 7 mars.
Opposition intéressante également en quart de finale de la Coupe CAF.
À suivre le duel ouest-africain entre Enyimba du Nigeria et Oroya de la Guinée. Le sort oppose aussi Al-Masri d'Égypte à la Renaissance sportive de Berkane, finaliste la saison dernière. Pyramide FC d'Égypte sera face à Zanaco de la Zambie. Enfin, Al-Nasr de la Libye affrontera Hassania Agadi. Ces matchs se joueront les 1er 8 mars en aller et retour.
Et le Maroc qui rejoint l'Égypte en finale de la CAN Futsal.
Le Maroc a décroché son billet après son succès 4-0 face à l'Angola. Le Raïm chérifien va ainsi défendre son trophée face à l'Égypte qui a eu son ticket. Un peu plus tôt grâce à sa victoire 4-1 devant la Libye, cette finale est un remake de celle de 2016. Pour l'heure, Marocains et Égyptiens sont assurés de disputer la Coupe du Monde de Futsal en Lituanie. Pour connaître le 3e qualifié africain pour le Mondial, il faudra attendre le match pour la 3e place entre la Libye et l'Angola. Cette rencontre ainsi que la finale auront lieu demain.
Yacouba, parlons de Kalusha Boalia, de nouveau candidat à la présidence de la Fédération Zambienne de Football.
Oui, la légende zambienne fera face à Andrew Kamanga, président sortant et candidat à sa propre succession. Joueur africain de l'année en 1988, Kalusha Boalia a occupé des postes importants à la CAF ainsi qu'à la FIFA. L'ancien joueur du PSV Eindhoven a été blanchi par la FIFA dans une affaire de corruption l'année dernière. S'il est élu, ce sera un retour aux affaires pour Boalia, qui a déjà occupé le poste pendant 4 ans. Il était président quand les Chipolopoulos ont remporté la CAN 2012 au Gabon. L'élection est prévue le 28 mars.
Enfin, Toronto et Denver solides en NBA.
Les Raptors de Toronto ont décroché leur 12e victoire consécutive aux dépens d'Indiana, 119 à 118. Le Belge d'origine congolaise Serge Ibaka a marqué 30 points. Et le Camerounais Pascal Siakam en a enregistré 25. Solide à l'Est, Toronto devance Boston, vainqueur de son 5e match d'affilée contre Orlando, 116 à 100. Denver a pris le dessus sur Utah, 98 à 95, 129 à 88 pour Brooklyn face à Golden State. Les Clippers de Los Angeles se sont imposés à Miami, 128 à 111.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, John Lyndon en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour et on commence par le Cameroun. Le Cameroun, où des menaces pèsent sur la sécurité des élections législatives et municipales en zone anglophone. Les séparatistes ont mis en exécution un projet de trouble de la campagne électorale pour le double scrutin du 9 février dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le point à Yaoundé avec notre correspondant Emmanuel Juntap.
Une caravane de campagne du RDPC, le parti au pouvoir, a été attaquée le week-end dernier dans la région du Sud-Ouest. Des hommes se réclamant de l'une des branches armées des séparatistes anglophones ont réclamé cette attaque. Lors de la première semaine de campagne électorale, un autre groupe armé a incendié à Tombelle, dans la région du Sud-Ouest, une antenne de Election Cameroun, l'organe électoral. Mais le gouvernement n'entend pas céder à la panique. Paul Attangandi, ministre de l'administration territoriale.
Les élections se tiennent donc partout. C'est d'abord la première instruction présidentielle. Il y aura l'encadrement sécuritaire. Et si cet encadrement sécuritaire mérite d'être renforcé, il sera renforcé. Autre instruction du chef de l'État, encadrer les camps dans le processus. C'est un défi important.
En janvier dernier, plus de 700 gendarmes et militaires ont été déployés en renfort pour sécuriser le processus électoral dans les deux régions anglophones. Mais sur des vidéos de propagande diffusées sur Facebook, des personnes présentées comme des partisans de partis au pouvoir ont été contraintes à se laver avec de la poussière sous la menace des séparatistes. Il s'agit, selon Adolphe Lelilafrique, gouverneur de la région du Nord-Ouest, des actes isolés dans quelques localités.
Toutes les mesures ont été prises pour, premièrement, sécuriser ces points chauds. Dans la perspective des élections, les autorités travaillent en concertation avec les populations, les chefs traditionnels, certaines élites de bonne volonté pour amener une situation normale dans ces points chauds.
Mais les velléités des leaders séparatistes contre le double scrutin du 9 février prochain font peser le risque d'un faible taux de participation. Bernard Okalabilaï est gouverneur du Sud-Ouest. Il pense que les populations de cette région vont cette fois-ci participer massivement au vote.
L'état des lieux dans la région du Sud-Ouest est au retour à la normale. Les populations qui avaient déserté les localités, leurs villages sont en train de rentrer parce qu'elles ont pris conscience d'un certain nombre de faits qui étaient en leur défaveur. Elles ont notamment compris que tout ce que les leaders sécessionnistes et les terroristes sur le terrain leur disaient n'était pas pour construire leur avenir.
Lors de l'élection présidentielle de 2018, malgré les mesures de sécurité prises par Yaoundé, le taux de participation dans le Nord-Ouest était de 5,36% et 15,94% dans le Sud-Ouest. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
6 février 2019, 6 février 2020, voilà un an jour pour jour que l'accord de paix et de réconciliation a été signé entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés du pays après des négociations à Khartoum au Soudan. L'an 1 de cette entente a été marqué ce jeudi par une grande rencontre de différents acteurs à Bangui. Qu'est-ce qui a changé depuis la signature de cet accord? À Bangui, justement, pour VOA Afrique, la correspondance de Freeman Sipila.
L'accord signé le 6 février 2019 prévoit d'une part un gouvernement inclusif, la dissolution des groupes armés, la réinsertion de leurs membres dans les corps en uniforme et la vie civile, d'autre part le désarmement des forces négatives. Depuis sa signature, au moins 70% de cas de violation ont été documentés par la MINUSCA et les principaux auteurs sont les groupes armés. Dr Arnaud Yaliki, enseignant-chercheur à l'université de Bangui, a écrit un ouvrage sur cet accord.
D'une manière globale, il y a des avancées, mais beaucoup de défis restent à relever. Sur le plan pratique, les défis qui restent à être relevés, c'est qu'il y a certains acteurs de cet accord qui ne respectent pas leurs engagements.
Pour l'homme de la rue, un an après, des progrès ont été enregistrés dans certains domaines, mais il reste encore beaucoup à faire.
On assistait à des violences, on assistait à beaucoup d'actes que les Centrafricains déploraient. Et donc aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a eu une diminution de la violence et tout cela à cause de l'accord.
C'est grâce à cet accord aujourd'hui que les deux anciens présidents sont revenus au pays.
Cet accord-là a enregistré beaucoup des irrégularités. C'est une bonne stratégie que le gouvernement avait mis en place parce que ça les contraint à ne pas faire des exactions comme auparavant.
Se félicitant des progrès réalisés, le gouvernement insiste sur le respect des clauses de cet accord politique. Ange-Maxime Kazagui, porte-parole du gouvernement.
Il faut donc que chacun, au moment où nous faisons le point sur cet accord, fasse à ses engagements, soit conséquent avec sa signature, afin que ensemble, en tout cas pour ceux qui réellement souhaite la paix, la réconciliation nationale dans ce pays, que nous allions vers celle-là.
Dans un message vidéo, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, note lui aussi des progrès réels, mais il met en garde contre la poursuite des violences.
Mais malgré ces progrès encourageants, je reste préoccupé par certains retards dans la mise en œuvre et je condamne fermement la poursuite des violences. J'appelle donc tous les signataires à respecter leurs engagements.
L'Union africaine et la CEAC se félicitent des efforts entrepris par les parties signataires dans la mise en œuvre de l'accord et réaffirment leur soutien à cette entente politique. De leur côté, les États-Unis d'Amérique réaffirment également leur soutien à l'accord. Je tiens à rassurer le peuple centrafricain que les États-Unis seront toujours aux côtés de ceux qui choisissent la paix, a déclaré Mme Lucie Tamlin, ambassadrice américaine en Centrafrique. Plusieurs principaux chefs des groupes armés sont dans la capitale à l'occasion de la célébration du l'an 1 de cet accord de paix. Le groupe de travail de la société civile ne voit pas d'un bon oeil cette présence. Paul Cresson Beninga en est le porte-parole.
Ali Daras venait de massacrer et on nous dit on ne sait pas où est-ce qu'il se trouve, mais pour l'amener et fêter l'an 1 de l'accord politique pour la paix et la réconciliation, on est allé le chercher et il a été transporté par le biais d'un avion pour atterrir à Bangui. Ça montre combien de fois les gens ne sont pas serrés dans ce pays.
Le tissu sécuritaire dégradé en raison de la crise qui a frappé le pays depuis 2012 a contraint le pouvoir de Bangui à conclure le 6 février 2019 cet accord de paix avec 14 groupes armés après d'intenses négociations à Khartoum au Soudan. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui sur le 101.7 FM.
Parlons à présent de l'épidémie de coronavirus et de la situation des Africains à Wuhan. Près de 5000 étudiants africains se trouvent dans la région. Claire Morin-Gibou a joint l'étudiant ivoirien Jean-David Koué, qui habite Wuhan depuis 7 ans. Il raconte son quotidien.
L'atmosphère à Wuhan actuellement est un peu triste, je dirais. Bon, moi qui vis dans cette ville depuis maintenant plus de 7 ans. La ville est un peu méconnaissable, les rues sont désertes. C'est même la peur au ventre pour ceux qui même sortent. Parce que, par exemple, là, je me rappelle, j'étais allé à la pharmacie il y a cela deux jours. La queue pour acheter un médicament, il y avait environ 2 mètres entre chaque personne. Donc, c'est un peu la peur au ventre même pour ceux qui s'hasardent à sortir pour se ravitailler ou acheter peut-être des médicaments.
Les sorties sont donc possibles ?
On sort quand c'est vraiment nécessaire. Les consignes, déjà, c'est de minimiser les déplacements. Pour moi, qui vis en dehors du campus universitaire, j'ai un peu plus de chance. Mais par exemple, mes camarades du campus, eux, c'est quarantaine totale. Ils ne peuvent pas sortir de l'université.
Et est-ce que les magasins sont encore ouverts ? Comment vous faites pour vous acheter à manger, par exemple ?
Les magasins sont pas totalement ouverts parce que le virus a coïncidé avec le nouvel an chinois. Et le nouvel an chinois, de base, les magasins sont fermés. Il n'y a que les grandes surfaces qui sont ouvertes. Et moi, de mon côté, je suis sorti que deux fois en deux semaines pour me ravitailler deux fois, en fait. Là, je vais, je fais des achats vraiment pour tenir longtemps et voilà.
La plupart des banques sont fermées. Comment vous faites pour avoir un peu d'argent ?
Moi, de mon côté, quand je peux dire que je suis un peu privilégié parce que je suis étudiant boursier de l'État chinois. Et donc, nos bourses sont virées directement sur nos comptes. Et bon, avec le porte-monnaie électronique, c'est un peu facile d'avoir de l'argent sur son portable directement. Mais sinon, les banques sont fermées, les services, mais pas les ATM.
Qu'est-ce qui est le plus dur, le plus difficile pour vous et les autres étudiants aujourd'hui?
Le plus dur actuellement, c'est de trouver des masques chirurgicaux ou des masques, je crois le nom, c'est N95, parce que la quarantaine a été un peu brusque, voilà, les gens ne se sont pas préparés et d'un moment à un autre, il fallait porter des masques obligatoirement, parce que si tu n'as pas de masque, tu ne peux pas rentrer dans les surfaces, c'est illégal de se promener sans masque et donc, le problème, c'est de n'avoir pas eu de masque avant la quarantaine. Donc là, ça fait que tu ne peux même pas sortir de chez toi pour en chercher. Donc c'est vraiment le plus gros problème auquel sont confrontés la plupart des gens ici qui voilà, cherchent désespérément des masques. Et la population est nombreuse ici, donc les gens se sont empressés d'acheter et de faire des stocks. Et donc il y a vraiment aussi une pénurie de masques dans plusieurs pharmacies.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump a été acquitté dans son procès hier mercredi. Le Sénat américain à majorité républicaine a voté 52-48 contre la destitution de Trump. Le vote conclut un procès de près de 3 semaines qui a révélé de profondes divisions entre les législateurs. D'après la correspondance de la VOA, la correspondante de la VOA au Congrès, Catherine Gibson, les enquêtes de la Chambre basse à majorité démocrate sont loin d'être terminées. Le récit de Salwa Jafari.
Le verdict qui tenait l'Amérique en haleine est tombé. Le président américain Donald Trump est non coupable.
The president of the United States is not guilty as charged in the first article of impeachment.
Le vote était sans surprise, démocrates et républicains étant presque tous restés fidèles à leurs affiliations. Les démocrates ont martelé que Donald Trump a entaché la démocratie américaine en conditionnant l'aide américaine à l'Ukraine à la contribution de ce pays aux enquêtes sur son rival politique Joe Biden et son fils Hunter. Doug Jones est sénateur démocrate.
Les actions du président démontrent une conviction qu'il est au-dessus de la loi, que le Congrès n'a aucun pouvoir de questionner ou d'examiner ses actions et que tous ceux qui le font à leur risque et péril.
Voici Kamala Harris, elle aussi sénatrice démocrate.
Donald Trump va s'en tirer en abusant de son pouvoir à des fins personnelles, en abusant de son pouvoir pour empêcher le Congrès de se pencher sur son inconduite et en prétendant faussement qu'il a été disculpé. Il va échapper à la responsabilité parce qu'une majorité de sénateurs ont décidé de le laisser faire.
Because a majority of senators have decided to let him.
Les sénateurs du propre parti du président ont divergé sur les raisons pour lesquelles ils ont voté pour l'acquittement. Certains ont fait valoir que Trump agissait entièrement dans le cadre des pouvoirs de sa fonction. John Cornyn est sénateur républicain.
La révocation du président pour avoir fait valoir des privilèges reconnus depuis longtemps et fondés sur la Constitution qui ont été invoqués par les présidents républicains et démocrates constituerait un précédent très dangereux.
Alors que d'autres républicains ont reconnu que ces actions étaient inappropriées, ils ont déclaré que la destitution serait une peine beaucoup trop sévère. Mais pour la première fois dans l'histoire américaine, un sénateur a voté pour destituer un président de son propre parti. Et ce n'est autre que Mitt Romney, sénateur républicain.
It was a flagrant assault.
C'était une attaque à flagrante contre nos droits électoraux, notre sécurité nationale et nos valeurs fondamentales. La corruption d'une élection pour se maintenir au pouvoir est peut-être la violation la plus abusive et la plus destructrice de son serment que je peux imaginer.
Le vote de Romney prive le président de la possibilité de dire que le soutien républicain à son innocence a été unanime. Et les démocrates continuent de faire valoir que le refus par les républicains d'avoir des témoins dans le procès invalide les résultats. L'un des procureurs de la Chambre basse durant le procès, Jerry Nadler, a déclaré aux journalistes que les démocrates continueraient à tenir le président responsable par le biais d'enquêtes, grâce à une ordonnance du tribunal réclamant le témoignage de l'ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton.
Ce 6 février est jour de naissance de Bob Marley. Il aurait eu 75 ans ce jeudi et l'on s'en souvient en chanson. Et c'est avec ces sonorités de Bob Marley qu'on se quitte. Chuck Tiro était à la mise en onde. Dan Crafton était à la console. John Linden vous a présenté ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous d'avoir suivi. Excellente soirée à l'écoute des programmes de VO Afrique. Bonsoir.
Bienvenue à bord.